Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
J'ai quel âge?
Oh là, quelle
70 ans, Ariane.
Quelle horreur.
Assume. Trois. 4.
Bonjour!
Oh mon dieu, Ariane!
Excusez-moi.
Les gens travaillent dans ce bureau.
J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui.
Voilà. Ariane est folasse.
Oui,
vous le saurez. Les chats ont leur quart d'heure de folie. Les zoomies, là. Ariane, c'est sa journée de folie. Ce matin.
Exactement.
Voilà. Bonjour, je m'appelle Anthony. Et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je vais être votre hôte pour la toute première fois.
Oui.
Évidemment, dans ce podcast.
La toute première fois.
Voilà. Référence que vous aurez si vous avez plus de 30 ans, je pense.
Bon, je l'ai, okay, j'ai moins de 30 ans.
Ariane, tu as 70 ans dans ta tête.
Voilà. Ah oui, c'est vrai.
Rappelons les choses.
Non, mais en plus, Jeanne Masse, c'est une référence de lesbienne, non?
Ah.
Bonne question.
Franchement, à chaque fois que je vais à la Ouette Formi, qui est une soirée lesbienne à Paris et pas qu'à Paris, organisée par un collectif qui s'appelle Barbiturix, à la fermeture, il y a toujours toute première fois. Donc,
s'il y a des lesbiennes qui nous écoutent et qui
savent. Est-ce que c'est
pourquoi...
une référence?
Voilà.
Slide dans les DM d'Ariane.
Ouais.
Voilà. Après, se passe ce qui se passe. Bref, Fanny, ça va?
Je vais mieux, je suis plus malade,
super.
Je suis là, coucou.
Ok, super. J'allais dire bon rétablissement, mais non, c'est déjà terminé.
Oui, ça y est,
écoutez,
bravo.
Écoutez, je pense qu'on peut commencer directement.
Et toi, Anthony, est-ce que ça va? Ouais, quand même.
Ça va, ça va. Je déteste répondre à cette question, en réalité, parce que je trouve qu'on fait tous semblant de répondre.
Alors, est-ce que ton transit intestinal va bien? Parce que la vraie, ça vient de là, ça va, vous le savez.
Oui.
Hein,
voilà. Oui. Oui. Quand on dit ça va, c'est est-ce que le transit intestinal allait bien?
Pardon, bah j'apprends des choses.
Eh ben c'était ça que ça voulait dire normalement à la base. Donc est-ce que tu vas bien de ce côté?
Oui, oui, mes selles vont très bien, elles sont très régulières. Voilà, vous saurez
putain,
tout sur le caca.
Putain, ça commence toujours par le caca.
Voilà, ben non, mais on peut enchaîner sur un autre type d'assise, à moins que vous ne répondiez que vous êtes en WC, des water closets, puisque la question de la semaine c'est quel genre d'assise êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt tabouret? Est-ce que vous êtes plutôt canapé? Est-ce que vous êtes plutôt avec ou sans accoudoir? Est-ce que vous aimez les chaises hautes, les chaises basses, les banquettes, les méridiennes? Racontez-moi tout sur votre assise préférée. Ariane, veux-tu commencer?
Bien sûr, avec joie. Alors, déjà pour commencer et pour introduire mon propos, j'aimerais préciser que je déteste les assises.
On dirait une dissertation.
Exactement.
Là. Pour introduire mon propos.
Déjà, de un, je déteste les assises droites. Vous savez, celles qui épousent pas la forme du dos et qui sont dures, type banquette justement.
Ouais.
La banquette, je déteste ça parce que je trouve que au bout d'un moment, t'es au resto, machin, et ben en fait, ça fait mal au dos. Et c'est dur, je sais pas, j'aime pas.
Mais je crois d'ailleurs que c'est souvent fait exprès dans les endroits qui se veulent les plus transitoires possibles, par exemple les quais de gare et aussi les restaurants, pour faire en sorte qu'il y ait un deuxième service en fait, pour que les gens se sentent pas trop à l'aise et
ne
s'éternisent pas.
Bah, ça m'étonne pas.
C'est sadique en fait.
Ça m'étonne pas, parce que même quand il y a des coussins, je sais pas, t'es jamais bien.
Donc, ce qui est synonyme finalement, peut-être. Ouais.
Du coup, je dirais que je suis plutôt fauteuil.
Oh. Avec ou sans accoudoir?
Avec accoudoir. Je vous dirais même que je suis un fauteuil en tissu, pas en cuir. J'aime pas les fauteuils club, les trucs comme ça et tout. Je trouve ça inconfortable quand tu t'assois, c'est froid. Si jamais t'es en short et que tu transpires un peu, ça colle. Enfin, vraiment,
ouais, ça c'est horrible.
Ça c'est horrible, voilà. Donc non, pas de trucs en cuir. Et je dirais... soit un tissu. Le tissu m'importe peu, en fait. J'aime bien le velours, j'aime bien qu'il soit côtelé ou non, d'ailleurs. Et je serais un fauteuil d'une couleur vive.
Ah. Enfin,
je serais pas un fauteuil beige. J'ai déjà dit mon désamour pour le beige dans la décoration, je le répète. Je serais un fauteuil... je vais choisir. Un fauteuil en velours,
oh là là,
côtelé,
oh wow,
bleu, roi.
Waouh.
Par contre, j'aime bien la forme du fauteuil club. Mais j'aime pas, vous voyez, alors je sais pas comment ça s'appelle, les capitons.
Les quoi?
Tu sais, les...
les petits ronds?
Si, si. Un fauteuil capitonné, ouais.
Voilà. Tu sais...
Quand le cuir...
Il y a des creux.
Comme un sac Chanel, en fait, matelassé.
Enfin, pardon. Ouais, bah
non,
oui. Hein.
C'est un type de matelassage, sauf qu'à ouais. chaque intersection, dans le quadrillage, il y a une espèce de gros bouton.
Oui, mais c'est maintenir. Ce que je dis, les ronds.
Voilà,
ah,
les
ronds. Je connaissais pas cette expression, ok.
Bah, c'est pas une expression.
Tu l'écris comment?
Non, mais... Enfin, c'est physiquement un rond, quoi.
Ah, oui, les plus loin, un rond.
Oui, il y a des carrés, il y a des ronds, là, c'est un rond.
Oui, c'est un petit bout, c'est une sorte de bouton, quoi. Ça, j'aime pas trop.
Attends, si tu veux, il y a
moi,
des.
Moi, ça fait une croix, ça fait
oui, mais il y a des stylos. Attends, je te montre. En gros, tu fais une croix, mais
c'est
au milieu, il y a un petit rond.
Oui,
en
oui,
fait.
Oui.
Voilà,
oui,
bah, oui. C'est ça, donc un petit rond.
Ok, okay. D'accord. Merci, Fanny, pour ce moment.
Mais je connais moins bien les sacs Chanel que toi, donc effectivement, je comprends.
Je sais pas si vous avez l'image du salon de Augustin Trapenard dans la tête.
Encore Augustin Trapenard.
C'est mon fond d'écran, bien sûr.
Augustin, appelle-moi. Non, je rigole. Mais
tout à fait, moi, de quoi tu parles.
Moi, ça pourrait être mon fond d'écran. Mais il a des fauteuils Chesterfield en cuir.
Chesterfield,
qui
exactement.
Qui sont complètement délavés par le soleil parce que le soleil rentre dans son salon.
Parce qu'il a le soleil direct, voyons, bien sûr.
C'est ça, évidemment. Et en fait, justement, c'est des fauteuils Chesterfield en cuir capitonné, quoi.
Bah, ça j'aime bof, même si c'est vrai que c'est beau hein, quand il y a un peu de patine et tout, mais bon, bref, du coup je serais ça, et qu'est-ce que j'ai dit, velours bleu, voilà, forme club, parce que ce que j'aime bien avec les clubs c'est qu'ils soient un peu en pente, vous voyez, quand vous vous asseyez dessus, vous êtes forcé de vous installer le dos contre le dossier, parce qu'en fait
t'as les jambes un peu surélevées,
pas vraiment, mais
ça force le lâcher prise finalement, voilà. T'es obligé de te laisser basculer en arrière.
Et comme vous
le
saurez,
hein? Non, comme j'allais dire, comme chez le psy, mais
un peu. Ah bah ma psy avait un peu un fauteuil où effectivement tu t'étais. Enfin, je vais pas dire quasiment allongé, mais ton corps forme un angle obtus. Écoutez, je sais pas comment vous dire autrement. Et en plus, ce qui est bien avec les fauteuils, enfin moi dans n'importe quel fauteuil, c'est que comme je suis maigre, souvent j'ai de la place. Et j'aime bien avoir de la place pour me mettre en tailleur, pour me mettre à genoux, pour me mettre un peu comme je veux, quoi. Et voilà, c'est ça, okay. Je serais cette assise.
Oh, et toi, Fanny, quel genre d'assise serais-tu ?
Alors moi, j'aime bien les trucs très confortables. Moi, en fait, mon assise préférée, c'est mon canapé chez moi, qui est un canapé... Alors, son seul défaut, c'est qu'il n'est pas clic-clac. Moi, j'adorerais qu'il puisse se transformer en clic-clac pour accueillir des gens plus facilement. Et j'ai pas envie de m'en débarrasser. Mais vraiment, c'est un canapé en tissu, donc 2-3 places, très confortable. En fait, quand tu te mets dedans, vraiment, t'es un peu en arrière. Mais il est pas, c'est pas un truc où tu disparais dedans. Non, vraiment, t'es smooth, t'es bien assis dedans. Et à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, qui se met dedans, il dit « Ah, j'ai plus envie de sortir du canapé. » Voilà, et je mets des plaids dessus, vraiment, je suis bien confort. Et il est bleu canard, bleu vert, bref, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait écrit bleu canard quand on l'a acheté. Mais il est vraiment très, très chouette. Je l'aime d'amour. Par contre, alors toi, tu disais, Anthony, que tu n'aimais pas les tabourets hauts. Moi, je les aime bien à petite durée. C'est juste que comme ça, t'as les... tu vois, on a des grandes jambes là, tous les trois on a un peu des grandes jambes, et au moins le tabouret haut, tes jambes, tu vois, elles sont là, t'as pas besoin de trouver quoi en faire et tout, non, elles pendent, et en fait ça fait du bien parce que les pieds sont toujours en appui sur quelque chose, et là j'aime bien des fois que les pieds ils respirent et hop, ils sont pas en train de toujours reposer sur quelque chose.
Ouais, mais y a pas de dossier.
Non, mais c'est pour ça, de façon temporaire. Temporaire, j'aime bien, voilà. Voilà, voilà.
Oui, okay. Mais non seulement y a pas de dossier, mais en plus, justement, puisque tu n'as pas les pieds sur terre. Et ben, si jamais tu dois partir rapidement, tu peux pas. Enfin, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu descendes et ensuite partir.
Oui, il faut une microseconde en plus.
Je trouve ça vraiment risqué. Et surtout, pour le coup, généralement, les tabourets hauts ne sont jamais assez hauts pour que mes pieds ne touchent plus le sol. Ah. Du coup, je me retrouve dans une position un peu bâtarde et gênante.
D'accord.
Voilà.
T'as genre la pointe des pieds au sol.
C'est ça. Ouais. Mon grand drame d'être une grande dame.
Voilà, c'est toi, ton assise préférée.
Mon assise préférée, bah, en fait, elle ressemble un peu à ton canapé, Fanny, puisque mon canapé est un magnifique canapé qui clic-clac, enfin, qui se déplie avec, c'est même pas un clic-clac pour le coup, c'est vraiment un canapé convertible avec un vrai matelas à l'intérieur.
Wow, c'est bien.
Bleu pan, qui est la même chose que le bleu canard, mais je préfère dire bleu pan parce que je trouve ça plus chic.
C'est vrai, c'est vrai.
En velours. Pas côtelé, parce que justement, je trouve que le velours côtelé, ça fait très prof d'histoire géo. Et ça me rappelle trop...
Toi, tu n'es que prof. Pas encore d'histoire géo, mais tu n'es que prof.
Oui. Mais non, en vrai, j'avais une salopette en velours côtelé noir, mais elle faisait pas trop prof d'histoire géo parce que c'était une salopette. Mais le
enfants
velours
de 4
côtelé,
ans,
vraiment, je peux pas. Non, même aujourd'hui, j'ai une salopette en velours côtelé noir. Elle est juste trop abîmée, mais sur les enfants, je trouve ça absolument adorable.
Oui, c'est adorable.
Oui.
Côtelé. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que j'ai un canapé dans lequel les gens se sentent très 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 bien. Et ce que j'adore, c'est des canapés un peu genre deux places. On tient à trois dedans. Mais parce que je trouve que ça peut créer une conversation hyper intimiste.
Ouais.
Où,
ah,
en fait,
mais oui.
Moi, j'adore.
Parce que t'es englobé, quoi.
Ouais, exactement.
Je comprends.
Il y a pile la place pour vous deux. Et donc, ça crée un univers avec mon ancien colocataire. On adorait se poser dans le canapé et c'était un canapé de place dans notre colocation qui était gris. Bon, bref, je l'avais pas choisi. Le mauvais goût est beaucoup trop répandu. Non, je rigole. Mais du coup, on était tous les deux dans ce canapé-là et on se parlait pendant des heures et des heures et ça créait des failles spatio-temporelles. Et je vais en rester là pendant vraiment 5-6 heures et on voyait plus le temps passer, quoi. Et là, j'ai recréé ça et récemment, il est venu me voir dans mon appartement actuel. Et on a refait ça dans mon canapé de place et j'ai trouvé ça incroyable. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que je serais plutôt un canapé de place convertible en lit avec un vrai matelas à l'intérieur. Mm-hmm. Parce que c'est important. Bleu pan parce que c'est ma couleur préférée, surtout en décoration. Et voilà. Mais justement, même les cinémas, en fait, ce que je déteste dans les cinémas, c'est que souvent, il y a des accoudoirs.
Bien sûr.
Et je déteste les accoudoirs, sauf dans les canapés de place qui servent à, du coup, éviter que tu meurs en basculant. Mais justement, les fauteuils de cinéma, il y a des accoudoirs pour délimiter les places de chacun et chacune. Je trouve ça trop. Et justement, quand tu vas avec quelqu'un d'autre, bah, tu peux pas.
Mais attends, Anthony, mais tu oui. sais pas que dans les MK2, il y a des love seats?
Wow. Oui, avec deux places, mais avec oui. un accoudoir amovible.
Oui?
Oui,
meilleur truc.
Alors, oui, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être chez toi.
Bien sûr. Mais moi, mais oh mon Dieu, quand je datais encore et que j'avais pas la flemme, aller au cinéma. Bon, je trouve pas que ce soit une très bonne activité de date parce que du coup tu parles pas, mais quand il y avait des love seats avec l'accoudoir amovible là, mais qu'est-ce que c'est bien pour te rapprocher, c'est idéal en fait.
Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est mieux que quand l'accoudoir est fixe,
bah ouais,
quoi.
Mais
où tu dois à chaque fois. Attends, comment je mets mon bras? Attends,
oh là là,
attends,
c'est horrible.
Non, c'est chiant.
Moi, je mets pas mon bras, je mets ma jambe par-dessus la personne.
Allez, ben bah voilà, comme ça, c'est bien.
Je marque mon territoire.
En fait, voilà. T'as tellement des jambes grandes, hop, c'est bon, ça passe.
Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. En résumé. Et voilà. Non, mais je déteste les fauteuils de canapé. Je suis en guerre contre les cinémas, en fait.
Ok.
Carrément.
J'ai raté ma phrase, là, non? Ça voulait dire quelque chose?
Non, si, ça veut
dire. T'es en guerre contre les cinémas, ouais.
J'ai dit les fauteuils de canapé,
ah, oui,
non?
Oui, les fauteuils de cinéma, voilà, oui, mais j'avais compris.
Voilà, excusez-moi. Les fauteuils de cinéma, voilà. Vraiment, je trouve qu'on devrait créer des fauteuils de cinéma pour 5, pour 6, pour 12. Ou juste des immenses banquettes. Mm. Et en plus, ce serait beaucoup plus inclusif parce que, enfin, en fonction ouais. de la taille qu'on fait, notre corps, c'est pas forcément confortable, quoi. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi.
Grave.
Bref, tout ça, c'est pour vendre plus de place par intérêt capitaliste. Alors que quand les cinémas ne sont pas remplis, s'il n'y a pas d'accoudoir, et ben, ça serait moins criant, en fait.
Mm.
Si c'était juste d'immenses rangées de bancs, ce serait super, je pense.
Ouais.
Vraiment, je rêve de salle de cinéma communiste. Voilà. c'est tout pour cette introduction. Ah si, on va faire les commentaires, même si j'en
oui
ai toujours pas reçu.
Quoi?
Alors,
t'as
non,
toujours
voilà.
pas de commentaires?
Non, non, je suis détestée dans ce podcast. Mais
arrête!
C'est grave. Je le vis bien, je ne suis pas là pour être aimée, je suis là pour faire mon travail.
Oh, oh la vache.
Ariane.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu as un commentaire à nous partager? Ou plusieurs, peut-être?
Alors, plusieurs, je vais quand même pas tous les lire, mais je tiens à dire et à vous remercier que vraiment ce sujet piano a déchaîné les foules.
J'ai rien à qu'à me rendre dans la tête pendant piano. Pardon,
et vous avez été grave nombreuses et nombreux à m'écrire pour me conseiller comment transporter ce maudit piano. Et donc je vais en lire un, celui de Fanny qui me dit. Fanny qui n'est
c'est pas
Fanny,
moi. Hein.
C'est pas Fanny, mais une autre Fanny.
Il y en a plusieurs.
Qui me dit « Coucou Ariane, pour ton piano et les déplacements, moi j'utilise Cocoli. Tu dis ce dont tu as besoin, t'as plein de transporteurs, particuliers ou perso, qui se proposent et te font des offres. Et tu peux même demander si tu as besoin pour porter jusqu'à chez toi. Je te conseille d'essayer, j'ai déménagé de Paris à Marseille avec cette appli et je l'utilise pour de plus petits déplacements quand j'ai trop demandé d'aide à mes copains. » Eh bien, je ne connaissais pas, donc je répète, l'appli s'appelle Cocoli. Je vais être honnête, je n'ai pas encore regardé, parce que la semaine dernière, je n'ai pas trop eu le temps de continuer mes recherches. Mais c'est bon à savoir, et si jamais je tombe sur la perle rare, je n'hésiterai pas à faire appel à Cocoli.
Ah, tu n'as pas de LM Cœur qui t'a offert un piano depuis, non?
Non, pas de LM Cœur qui m'ont offert un piano, mais en vrac, parmi les conseils qu'on m'a donnés, on m'a dit « peut-être tu peux voir pour louer un piano ».
Ok.
Parce que ça se fait. Sauf que je me dis, si je loue un piano, il y a bien un moment où je vais l'avoir acheté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À force de payer, je vais le payer. Enfin, je vais avoir payé
mais
son prix.
Si
quoi.
Tu loues un piano, il y aura tout quand même le problème du déplacement. Enfin...
Ouais, mais non, parce que du coup, si je loue un piano, c'est via des pros. Et donc, ils te le livrent.
Oui, mais forcément, avec des pros, t'aurais pas de souci de placement du piano dans ton appartement. Mm. Que tu le loues, que tu l'achètes. Je comprends pas le.
Oui, parce que je disais que peut-être acheter un piano neuf droit, c'était trop cher et machin.
Oui, mais du coup, si
tu loues
un piano droit...
Il y a plusieurs problèmes dans ton problème, donc c'était compliqué, en fait.
Oui. Si tu loues un piano droit, tu vas dire « Ah, bah c'est vraiment super !» Du coup, j'ai envie d'en acheter un. Et t'auras perdu l'argent entre-temps, en fait.
Mais, en fait, je me demande si tu peux pas louer... Enfin, en quelque sorte, payer en plusieurs fois l'achat d'un piano.
Ah bah, bien sûr que oui.
En mode en le louant au début, et puis en fait en disant « Non, finalement, je l'achète. » Et tout l'argent que t'as mis dans la location, bah, c'est déduit du prix d'achat. Vous voyez ce que
c'est? C'est pas ça le leasing dans les voitures, je sais pas quoi.
Peut-être, ouais.
D'adulte,
peut-être,
je sais
quoi. Pas, j'ai jamais fait, j'ai pas le permis.
j'ai pas le permis non plus, voilà. Tu ne veux pas pouvoir t'aider.
Du coup, merci beaucoup pour vos conseils que je vais suivre à la lettre.
Oh, trop cool. Ben, moi, j'ai un commentaire aussi. Alors, qui date d'il y a quelques semaines, c'est Astrid qui m'écrit « Bonjour Fanny, je viens d'écouter l'épisode de LMK du jour et je voulais te dire quel bonheur c'était d'entendre que ton kiff, c'est le karaoké. Parce que j'adore ça aussi. Et encore plus quand tu as parlé du BAM. J'y suis allée que deux fois, mais j'en suis fan quand même. Et quand tu as parlé de certaines fois où tu avais des guests, j'étais, mais moi je veux trop en être, surtout que vous en faites vraiment souvent et que j'aimerais en faire beaucoup plus. Et moi aussi j'avais une liste, j'ai changé de téléphone et je n'ai pas pensé que les notes ne se sauvegardaient pas toutes seules. Deux chansons que je veux faire en karaoké, bonne journée à toi.
Stylé.
Donc franchement là je suis à ça de dire ok, est-ce que je vais pas faire un groupe WhatsApp géant de plein de gens venir faire des karaokés. Donc voilà, peut-être, en fait, maintenant on fait un mois sur deux parce que tous les mois en fait on se lasse, mais un mois sur deux c'est pas mal. Donc Astrid, merci beaucoup et peut-être une prochaine fois.
Ah. Ok, ok. Ben, j'espère que vous faites des karaokés du côté de chez vous également.
Oui.
On va passer au kiff. C'est quoi ton kiff cette semaine, Fanny?
Alors, j'ai deux kiffs cette semaine. Parce que c'est pas des mini-kiffs, mais c'est pas des kiffs sur lesquels je peux tenir très longtemps non plus. J'ai deux kiffs cette semaine. Déjà, on va faire chronologiquement. J'ai déjà le plaisir... Enfin, non, mais c'est dit comme ça, c'est bizarre. Mais en fait, c'est que récemment, j'ai relancé un podcast avec des copines.
Mmh.
J'en suis très, très, très contente. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, avec plusieurs belles personnes formidables, j'avais lancé un podcast qui s'appelait, et qui s'appelle toujours du coup, La Menstruelle. Le podcast qui respecte vos règles. Et en fait, c'est ce podcast, à chaque épisode, on parlait d'un sujet en lien avec les règles, les menstruations. Et vraiment, l'idée, c'était de... alors vraiment, maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé, mais encore il y a quelques années, on se disait, ouais, il y a des choses, en fait, même à apprendre aux gens, ou des choses où on se dit, mais on est tout le temps dans notre coin et tout, on ne sait pas. Et vraiment, c'était trop cool parce que les premiers épisodes, on avait fait beaucoup de sujets assez universels parmi les personnes qui ont leurs règles. Donc, c'était les premières règles, le rapport à la famille, à l'école, nanana. Et après, on avait invité des gens, des guests, notamment sur certaines maladies, sur certains sujets et tout. Donc, vraiment, c'était un très chouette podcast. On avait fait certains épisodes documentaires qui étaient très, très chouettes. Donc, vraiment, un truc où on se disait, mais là, il y a vraiment limite, on faisait du service public. Parce qu'on avait des gens qui écoutaient ça, notamment avec leurs filles ados, et des gens qui nous disaient merci parce que ça me permet d'ouvrir le dialogue sur le sujet, d'informer. Vraiment, on se disait, voilà, si on peut être une source, ça peut être très très cool. Et il y a 2 ans, on avait un peu mis ce podcast en pause parce que la vie, parce qu'en fait, notamment, à la base, on était 4-5 personnes à vivre à Paris. Et qu'on en a qui ont déménagé, on en a qui avaient trop de boulot, donc on a dit bon, on le met un peu en pause, mais on n'avait jamais dit on arrête. Et ça nous trottait un peu dans la tête, et moi je sais que je voyais plein de festivals liés aux règles, je voyais plein de super comptes Instagram qui parlaient des règles, ou même de l'actualité en général, il y avait tellement de choses qui en parlaient, qui avaient un lien, où je me disais, tain, c'est dommage qu'il n'y a plus la menstruelle, on pourrait faire un truc là-dessus, non, c'est dommage. Et il y a quelques semaines, ben, le hasard a fait que vraiment, il y en a une qui a dit, ça vous dit, on relance. Et on est 2 autres. On est pour l'instant que 3. Mais dit, mais ouais, venez, on le fait. Et la différence, c'est qu'on se dit maintenant, on va moins se mettre de pression. C'est qu'avant, il sortait chaque mois à chaque pleine lune. Quand vous voyez la pleine lune, demandez-vous, est-ce qu'il y a un épisode de la menstruelle? Voilà, c'était notre rythme. Et maintenant, on se dit, ben écoute, on va toujours sortir à la pleine lune, mais il n'y aura pas tous les mois. Il y aura quand on veut. Il y aura les sujets. Bon, les sujets qu'on veut, ça change pas. Mais vraiment, on se dit, mais on a envie de reprendre ce projet sans se mettre la pression. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc là, la semaine dernière, là, la pleine lune de janvier, est sorti le nouvel épisode de la menstruelle. Où pour le retour, on a fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, 2 ans lié à l'actu, lié aux règles, des petites recos. On a un peu fait un épisode retour de un peu pot-pourri de plein de choses. Et pour ça, je suis vraiment trop contente. Vraiment, ça me dit, mais ce projet que. On a tous ça, peut-être parfois des projets qu'on a un peu en tête, qu'on a fait avec des gens. On se dit, bon, moi, un jour, j'aimerais bien le relancer. Donc là, c'est vraiment le kiff de, ouais, on le relance, mais tranquille. Tranquille, vraiment, à notre rythme et tout ça. Donc ça, vraiment, allez écouter La Menstruelle si le sujet des règles vous intéresse. Mais vraiment, on a fait plein de choses. Je suis trop, trop fière de ce truc-là. Et deuxième kiff, Alors là, très différent. C'est lié à mon boulot avec mon podcast Passion Médiévis. Je ne sais pas si je dis, mais je fais un podcast lié au Moyen Âge. Ce matin, j'ai fait un truc où vraiment, si tu m'avais dit quand j'ai lancé Passion Médiévis que je ferais ça, ce serait ouf. J'ai visité le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce matin. Je suis montée, enfin vraiment, j'ai visité l'intérieur et la charpente qui est en cours de construction.
Stylé.
Actuellement. Donc, je suis un peu comme une ouf parce que c'est un partenariat que je fais avec l'établissement public qui gère la com autour de la cathédrale et tout. Et donc, je fais des épisodes avec eux. Mais ben, je vais faire des interviews d'artisans et tout. Mais là, je n'ai pas enregistré pendant la visite. C'était vraiment en mode bonus de bah, ça te dit, Fanny, de visiter. Et moi, bah oui, de ouf.
Bah, ça te permet de mieux faire ton travail après.
Non oui, voilà. Non, mais je veux dire, c'était pas indispensable. Tu vois ? C'était... Oui, mais c'était quand même cool. Non, mais...
voilà. Ça me paraît assez indispensable, mais ok. Mais oui, c'est trop cool.
Alors déjà, il y a quelques semaines, j'avais enregistré l'atelier de charpenterie qui ont refait du coup la charpente de la nef, donc la majorité du toit, si tu veux. Donc j'étais déjà en Normandie et il restait encore quelques poutres qui devaient partir. Donc là, déjà, je voyais des poutres en mode « Ah, oh, ça va être dans Notre-Dame, ça !» Déjà, j'étais ouf. Et là, bah, là vraiment, j'y suis rentrée. Alors attention, le protocole du plomb. En fait, c'est que il y a encore, en fait, il y a tout un protocole de santé parce que il y a encore, en fait, quand la cathédrale a brûlé, le toit en plomb a fondu et donc il y a une pollution au plomb particulière. Donc, en fait, quand tu rentres maintenant, bah, tu dois mettre une combinaison particulière. Moi, j'ai dû enlever tous mes vêtements. Alors, j'ai eu le droit de garder ma culotte, voilà. Mais sinon, mais ils t'en donnent d'autres. Et après, quand tu sors, c'est douche.
Ah ouais.
Est-ce que les vêtements étaient stylés?
Alors, tu veux voir des photos? C'est clairement pas... en rigolant, en disant « Ok, on n'est pas prête pour la Fashion Week. »
Attends, mais la pollution au plomb, c'est si rémanent que ça, enfin, bah, post-incendie?
Oui, alors, enfin, c'est la procédure. C'est la procédure et tout, mais en vrai, c'est bien fait et c'est pas trop... Alors, je crois que quand tu dois faire ça deux fois par jour, parce que les gens qui
c'est
rentrent
pénible.
Et qui sortent, oui, c'est pénible. Mais bah, en soi, moi, je trouve ça normal, donc il n'y a pas de souci et tout. Mais attends, je vais te montrer ma tenue...
Je me souviens, quand j'ai visité des appartements pour déménager, dans les bilans, les DPE, les... je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, mais ça va ! Donc Fanny m'a montré une image de sa combinaison.
Donc,
au plomb, elle a casque de chantier, une combinaison blanche et des bottes.
En fait, c'est surtout ce qui comptait, c'est que en fait, quand je ressortais, mes vêtements à moi étaient propres. En fait. Moi, mes vêtements, du coup, restaient dans la partie non contaminée. Bon, bref, ça, c'était pas la partie la plus importante.
Moi, je trouve ça super intéressant.
Mais c'était en vrai, c'est... en gros, quand t'arrives, même il y a un protocole de 15 minutes, il t'explique et tout. Est-ce que, voilà, non, et tout. Il y a ce côté-là. Donc, oui, alors techniquement, j'ai été à poil à côté de Notre-Dame, maintenant, si on peut le dire, parce que, en plus, en sortant, je retrouvais plus en fait mon. J'avais mis mes affaires dans un casier et le cadenas il s'était bloqué. Donc j'étais à poil dans le couloir parce qu'en plus j'avais oublié de prendre les serviettes qui étaient dedans. Donc vraiment j'ai eu un moment d'angoisse de est-ce que je vais devoir aller voir des gens parce que je n'avais pas aucun vêtement en fait. Parce que même mes vêtements sales j'avais dû les laisser dans la partie sale. En fait, t'as le sas, tu vois, où il n'y a que la douche. Donc je n'avais plus rien. Tu vois.
La culotte.
Oui, ma culotte. Mais je n'avais rien pour me sécher, en fait, même d'abord. Donc j'étais trempée, parce que je n'ai pas à remettre ma culotte si j'ai encore trempé. Mais...
Ah oui, t'étais vraiment nue comme un verre, genre.
Voilà, okay. C'est un vestiaire collectif ?
Non, c'est des petits vestiaires individuels, en fait. Mais dans le couloir, en gros, c'est par là où j'étais rentrée à la base. Et en fait, il y a un monsieur qui gère en fait, cette zone-là, tu vois ?
Ouais.
Qui, à l'entrée, te donne les vêtements que tu dois mettre, les vêtements protocolaires, machin et tout. On est monté vraiment avec un ascenseur où tu montes au 19e étage. Au niveau du toit. Et ce qu'il faut dire que là, on peut encore. Enfin, non, on peut pas le visiter. Là, vraiment, j'ai eu un truc spécial. Mais concrètement, on peut y aller. Mais après, on pourra plus aller dans la charpente. En fait, il n'y aura que quelques personnes qui pourront y aller. Et ce qui est cool, c'est que donc, ils ont reconstitué, comme c'était à l'époque, avant l'incendie. Et notamment, ils ont ajouté un truc. Ils ont ajouté comment ça s'appelle ? Un système pour pouvoir mettre de l'eau si jamais ça brûle encore. En fait, ils ont rajouté quelques systèmes de sécurité qui n'existaient pas à la base, mais qui, en fait, s'insèrent parfaitement et n'ont pas modifié beaucoup de choses. Mais c'est très émouvant, en fait, de voir à l'intérieur, mais ça a vachement avancé. Et ça va réouvrir en décembre 2024.
Ça a été refait avec ou sans plomb ?
Ça va être recouvert de plomb, je crois, il me semble. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, parce que, voilà, du coup, là, moi, je vais m'intéresser à la partie médiévale et tout ça. Mais il me semble que ça va être vraiment refait à l'identique, comme avant. En fait, comme ce qu'avait fait donc Viollet-le-Duc, donc c'était au moment de la grande rénovation de Notre-Dame au XIXe siècle. Donc vraiment, Viollet-le-Duc, c'est lui qui a rajouté plein de choses, c'est lui qui avait refait la flèche et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un nom qui revient beaucoup quand on parle de Notre-Dame, donc l'architecte Viollet-le-Duc. Et donc l'objectif, c'est de refaire comme à ce moment-là. Mais ce qui est hyper émouvant, c'est qu'ils refont beaucoup de choses. Par exemple, les charpentes que j'avais visitées, ils ont refait donc toutes les poutres et tout ça, mais en reproduisant même les petites choses qui ne sont pas des dessins, pas des décorations en tant que telles, mais qu'avaient fait les charpentiers du Moyen-Âge.
Okay.
Vraiment, tu avais certaines poutres qui étaient taillées d'une certaine façon, où tu sentais que c'était le charpentier de l'époque qui avait fait un peu, ok, bah là, je fais ma petite forme particulière et tout.
De toute façon, c'est le deal, non, pour les monuments classés,
oui.
C'est comme ça.
Non,
hein.
mais c'est, tu vois, en fait, je trouve ça, il y a un côté transmission entre le charpentier du Moyen-Âge qui a fait ce petit truc en se disant, moi, jamais personne va voir ça et tout, hop, et là, quelqu'un qui le refait.
Et comment il savait que c'était comme ça?
Parce que ça a été pris en photo, en fait, c'était très bien documenté.
D'accord.
En fait, c'est avant que ça brûle. Tout était très bien documenté, donc on pouvait refaire. Ils ont pu vraiment refaire chaque chose à l'identique. Et c'est vraiment très, très émouvant. Et même, genre, je me rends même pas compte que j'ai fait ça ce matin. Enfin, bon, en plus, il pleuvait, donc on devait un peu baisser la tête tout le temps, donc c'était un peu compliqué. Bon, c'est Paris, quoi.
Mais il pleuvait dans le monument ?
Non, mais en fait, quand j'étais en extérieur, là, quand on est allé autour, ben, il pleuvait un petit peu. Donc, tu vois, tu pouvais pas autant lever la tête que d'habitude. Mais c'est trop cool, quoi.
Ouais, c'est super. Et donc là, demain, enfin dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, tu vas interviewer certains artisans et artisanes.
Oui.
Et ben, c'est trop bien que t'aies vu la charpente, parce que si t'as interviewé des charpentiers et des charpentières, c'est que t'as pas vu la charpente, comment tu fais?
Bah oui, non, mais c'est ça. Non, mais, bah, en fait, j'ai déjà interviewé les charpentiers, mais en fait, parce que c'est compliqué à concevoir une charpente, en fait, médiévale, tu vois, c'est... Même ils m'ont montré des photos et tout, parce qu'en fait, quand tu vois assemblé, tu peux pas voir tous les détails, alors que lui, il m'a montré en détail des photos et tout. Là, j'ai interviewé une sculptrice. Oh, je sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, ça va. Bref, mais ça va être plusieurs métiers comme ça, et enfin, je suis vraiment contente parce que ça... Bah même sur la valorisation des métiers, je trouve ça assez important. Tu vois, la sculptrice que j'ai interviewée aujourd'hui, elle me disait qu'en fait, il n'y avait pas de formation de sculpteur ou sculptrice, en fait, très peu. Il n'y a pas de parcours comme les Compagnons du Devoir ou des choses comme ça. Et en fait, tu dis, mais il y a des... Et du coup, aujourd'hui, notamment avec les robots et tout, il y a plein de choses qui se font de façon automatique. Mais il y a plein de choses, on dit, mais on est en train de perdre du savoir. On est en train de perdre le savoir-faire de ce genre de choses, même de faire à la main certaines choses qui vont prendre plus en compte la pierre et tout. Et donc, tu dis, mais en fait, ce chantier a notamment permis à ça, à peut-être valoriser certains métiers en mode, les gars, en fait, oui. Il y a des choses dont on va peut-être avoir besoin. Bon, là, c'était assez exceptionnel, clairement, ce chantier. Hein. C'est exceptionnel sur plein de niveaux. Mais voilà, de se dire, bah, tous ces métiers qui sont encore manuels, bah, il ne faut pas que ça disparaisse totalement, parce que ça, on peut toujours en avoir besoin, et pour d'autres choses. Donc, non, mais je suis contente, ça me permet de rencontrer plein de gens cool, de voir des trucs cool.
Et donc, ce sera réouvert au public en décembre, après.
Ouais, normalement, en décembre 2024, okay. C'est ça.
Wow.
Ouais.
C'était, ça n'a pas été si long, finalement, si ?
Bah, 5 ans. Je crois que c'est un peu
plus. Ah bon ?
Un peu plus. Bah oui.
Mais j'ai quel âge ? Oh là,
70 ans, Ariane.
Quelle horreur.
Assume.
Ça veut dire que j'avais 20 ans quand elle a cramé ?
Ben, putain, attends, mais... attends. Oui.
Moi, okay. J'avais 17 ans. C'est
ouais.
Fou.
Mmh.
Ah là là, le temps passe vite.
Eh bien, sachez que je ne suis jamais entrée dans Notre-Dame.
Bah alors, moi, je suis entrée que deux fois. Enfin, deux ou trois fois, je crois, dans ma vie, ever, avant l'incendie. Donc, ouais. Je te rassure que même moi, en fait, je passais devant tout le temps.
Faut payer ou pas ?
Non, c'est gratuit.
Okay.
Et en fait, c'est qu'il y a la flemme, il y a la file d'attente. Mais après, c'était ben, le monument gratuit le plus visité de Paris.
Oui, bah oui.
Et c'est aussi, en fait, le... enfin, ça a changé beaucoup de choses dans la vie des musées à Paris aussi. Parce que forcément, il y a ce flot de touristes qui, même si du coup, voilà, comme c'est des gens qui venaient pour voir un truc gratuitement, n'ont pas forcément payé pour d'autres choses, mais ça a pas mal aussi redistribué.
Ah, mais il y a le musée médiéval juste à côté d'ailleurs à Saint-Michel.
Musée de Cluny, oui.
Ah oui, bah oui.
J'adore. Donc, musée préféré ever.
Ouais. Ok, d'accord.
Bah voilà, c'était mes kiffs de. Et j'ai trop hâte, et ça sortira sur Passion Médiéviste en mai. Mais allez voir le compte, et encore une fois, bon, enfin, je suis rémunérée, mais là, pas directement, mais allez voir le compte Rebâtir Notre-Dame. Parce que du coup, c'est le compte qui gère la com de Notre-Dame, et en fait, qui documente beaucoup comment évolue le chantier. Donc déjà, vous parcourez les photos, vous pouvez voir comment, sur Instagram, comment ça a bougé au fur et à mesure, et c'est vraiment.
Okay.
C'est assez cool. Et Notre-Dame, c'était en 2019.
Oh.
Donc oui, c'était il y a 5 ans.
Putain.
Or, Suga, enfin, plutôt pour revenir à ton premier kiff,
ouais.
Je me demandais, mais c'est une question vraiment débile, j'ai trop honte, mais attendez, mais la pleine lune, c'est tous les quand 28 jours environ, c'est ça?
Ouais,
ouais, ça.
Je crois, ouais, à peu près.
Bah, tes épisodes sortaient à quelle fréquence?
Bah, c'était à chaque pleine lune. Donc,
du coup.
Bah, c'était quand il y avait une pleine lune, on prévoyait un épisode, donc c'était
mais
à peu près tous les mois.
La pleine lune.
Bah oui, c'est à peu près, il y en a une par mois environ.
Ok, parce que je pensais que c'était genre 28 jours et du coup ça décale. Par
bah exemple. Oui, au pire ça décale, mais ça va, c'est pas, ça décale énormément.
Ouais, je suis assez intriguée par ces histoires de pleine lune. et oui, je réalise que j'ai pas fini mon histoire de DPE et de plomb, quand je racontais, quand je visitais mes appartements, je pouvais regarder le diagnostic DPE, diagnostic procès énergétique, je sais
pas. Ouais, c'est ça, énergétique, machin.
Diagnostic pour l'énergie, un truc comme ça. Bref, et donc il te raconte l'électricité de l'immeuble, du bâtiment, de l'appartement. Et aussi, il y a un facteur sur le plomb, la présence de plomb ou pas dans, dans l'appartement. Et justement, en fait, j'ai réalisé à ce moment-là à quel point c'était genre considéré comme quelque chose de très grave, alors que souvent, le plomb qu'on trouve dans les appartements à Paris, en région parisienne, c'est pas la peinture qui serait dans l'appartement, mais c'est plutôt la peinture en fer forgé à l'extérieur, sur les balcons, des choses comme ça, quoi. Et ça plombe complètement une note de DPE, sans mauvais jeu de mots. Voilà.
Moi, j'avais eu ça aussi pour mon appart. Enfin, ça m'avait beaucoup intriguée, en mode, petite trace de peinture au plomb. Mais oui.
Vais-je mourir intoxiqué?
Mais non. Ça va.
Mais ouais, ça te plombe complètement la note pour un truc qui fait vraiment 50 mètres carrés sur ton balcon, quoi.
C'est ça.
Okay. 50 centimètres carrés, excusez-moi.
Le mec a 50 mètres
non,
carrés
pas du
des balcons. Oh my
pas
god.
Pas du tout, je ne suis pas Marie Stéphanie. Alors. Ariane, c'était une blague, oh là là. Ariane, c'est quoi
elle
ton.
Elle a seulement 35, voyons.
Je me souviens pas.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Ariane, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Alors, j'ai réfléchi le temps que Fanny fasse ces deux kiffs extrêmement intéressants. Ça va être un peu deep, je vous préviens. Alors,
j'ai pas pris de mouchoir.
Oh non, mais ça va.
J'en ai.
Merci Fanny.
Il se trouve que en ce moment, en gros, depuis que je suis rentrée de Thaïlande, je suis pas au top, même si on dirait que je suis folasse, je suis pas trop au top de ma forme, je sais pas, je suis un peu, c'est probablement parce qu'il fait encore très gris à Paris, il fait froid et tout, tous les jours sont les mêmes, bref. Et du coup, je sais pas, je m'ennuie un peu, j'ai un peu de blues, et... Il se trouve que, comme vous le savez, j'ai arrêté de voir ma psy il y a un temps. Je ne sais même plus quand c'était. Fin d'année dernière.
Oui, parce qu'ensuite, j'ai arrêté grâce à toi. Enfin, suite inspirée par toi. Donc, c'était début décembre.
Ouais, ça doit être ça.
Avant début décembre.
Écoutez, sachez qu'elle me manque, des news de ma psy. Parce que, je sais pas. Il y a quand même certaines choses où je me dis, si je pouvais débroussailler ça avec elle, ça serait quand même mieux. Et... En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir un regard extérieur. Enfin, vraiment, bref, ce n'est pas le sujet. Et c'est vrai que globalement, dans ma vie, j'aime pas trop demander d'aide. Quand je suis en difficulté pour faire quelque chose, quand je sens que j'ai besoin de, par exemple, juste parler, etc. C'est pas trop un truc que je fais. Je valorise plutôt le fait de me débrouiller toute seule, de chercher les solutions par moi-même. Aussi, je pense parce que je suis l'aînée d'une famille dans laquelle mon père est absentéiste et ma mère, je crois que j'en ai déjà parlé mais c'est pas grave.
De ta mère? Oui,
j'en ai déjà parlé. Non, le fait que ma mère soit italienne et que du coup, par exemple sur tous les sujets administratifs, elle est complètement larguée parce que elle connaît pas du tout ce type d'administration là et ça se passe pas comme ça en Italie, etc. Et donc en fait, quand moi j'ai dû...
Mais tu veux dire même maintenant là, avec ça fait un moment qu'elle vit en France quand même, elle est encore larguée?
En fait, le truc c'est que mes parents, qui ne sont actuellement plus ensemble, mais ont eu une relation très étrange dans laquelle mon père avait clairement une emprise sur ma mère. Ma mère n'avait aucun accès à tous ces sujets-là. Et mon père s'occupait de tout aussi, je pense, pour la couper de... Je sais pas, d'avoir un quelconque...
Autonomie, en fait.
Ouais, exactement. D'avoir une quelconque autonomie sur les finances.
D'accord,
sur,
voilà. Donc elle redécouvre un peu ça.
Exactement. Et donc, ce qui fait que quand j'étais plus jeune, maintenant moins, mais c'est arrivé très vite dans ma vie, ce moment où je dois me démerder pour faire mes papiers toute seule. Parce qu'en fait, ma mère, un, elle est italienne, donc elle sait pas vraiment les démarches qu'il faut faire. Deux, elle est malvoyante, donc pour écrire des trucs sur un papier, c'est un peu compliqué pour elle. Donc, et je dis ça, je cite ça en exemple, mais je pense que le fait que j'ai du mal à demander de l'aide, ça vient en partie de ce genre de situation où, en fait, je vais le faire toute seule et c'est pas grave et je vais, voilà. Par exemple, à l'école primaire, mes parents, ils signaient les papiers, quoi. Mais j'ai toujours été, j'ai toujours rempli mes trucs, j'ai toujours recherché les infos sur le numéro de police d'assurance. Enfin, ouais. Alors j'avais 6-7 ans, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est comme ça.
Déjà une bébé adulte.
Quoi. Ouais, voilà. Et après, enfin, je jette pas du tout la faute sur ma mère ou mon père, oui, mais pas ma mère, mais parce que la pauvre, enfin, voilà, elle connaissait rien. Donc, et puis en plus, c'était compliqué pour elle de voir, tout simplement. Tout ça pour introduire mon kiff, qui est ce week-end, avoir réussi à demander de l'aide. Depuis, comme je disais, que je suis rentrée de Thaïlande, le mood est pas ouf et tout. Et c'est vrai que quand, moi, le mood est pas ouf, j'ai tendance à m'isoler, j'ai tendance à passer beaucoup de temps chez moi, alors que ça me fait pas du tout du bien. Y a des personnes qui le vivent parfaitement, mais moi, c'est vrai que si je reste toute une journée seule chez moi, je vais pas aller bien le soir, quoi. Je sais pas, je commençais à voir que je faisais plus trop mes courses, je faisais plus trop à manger, je rangeais plus trop mon appart. Je commençais à me sentir un peu submergée par les tâches quotidiennes et qui normalement, oui, demandent un peu demandent quand même un peu d'énergie, mais c'est généralement des choses que je fais de manière automatique, quoi. Et vu que je sais que je peux glisser assez vite vers un truc où je me laisse déborder et du coup après ça va plus du tout, j'ai décidé de me prendre en main et de me dire. Ok, là, ce week-end, je vais demander à Valentine, donc mon amante. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave.
Je crois que c'est la première fois que tu dis son prénom.
C'est vrai,
allez,
non, c'est pas grave.
Ah là là.
Valentoche, comme j'aime à l'appeler. je lui ai dit, vraiment comme ça, est-ce que tu peux venir m'aider chez moi? Parce que là, j'arrive plus à faire le ménage. Et, fun fact, elle a dit oui.
Oh.
Et ça s'est très bien passé.
Oh, merci Valentoche.
Vraiment, merci Valentoche. Mais surtout que moi, dans mes relations amicales ou amoureuses, ou enfin, je suis vraiment la première à faire ça. Le nombre de fois où j'ai fait le ménage de mes potes, la vaisselle de mes potes, les courses à mes potes, parce que je sens que, je sais pas, ça va pas trop. Ouais.
Quand il y a le demander ou quand toi tu constatais que, d'accord, ok.
Pas forcément.
Et enfin, vas-y, poursuis.
C'est juste quand je sens que bah mes potes sont dans un moment un peu difficile, qui, je sais pas, qui font face à la perte d'un de leurs proches, qui font face à une rupture amoureuse, je sais pas, et je sais que, alors je me permets pas de non plus entrer chez eux par effraction et leur faire leurs courses, hein, qu'on soit bien d'accord.
Toc mais... toc toc.
Voilà.
C'est Ariane.
Mais c'est juste que voilà, par exemple, si Yael m'invite chez elle ou chez eux, bah je passe au supermarché avant, je fais des courses pour faire le déjeuner, j'achète.
Normal. C'est bien. C'est
voilà.
Ouais, pour moi c'est normal.
Et puis j'essaie de pas être une charge en plus quand j'arrive chez les gens, quoi. Et pareil, Valentine, c'est quelqu'un de très sensible qui souvent a besoin d'un appui émotionnel et enfin voilà. Et je suis toujours, je suis ravie quoi de pouvoir lui offrir ça. Et si, quand elle a besoin de me parler, elle me parle. Si elle a besoin d'aide avec ses affaires, elle est nulle. Alors l'inverse de moi, moi je suis hyper forte en administration du coup. Elle est nulle. Elle ne sait rien faire vraiment. Elle appelle toujours ses parents pour ce qui est ok, hein. Enfin, c'est dur et on nous l'apprend pas forcément, donc voilà. Mais voilà, je l'ai aidé plein de fois à faire ces trucs-là, et cette fois-ci, je me suis dit, parce que c'est quelque chose que j'avais aussi exploré avec ma psy, où clairement, j'avais constaté que moi, je demande jamais d'aide, je me démerde toujours tout seul, et c'est pas forcément bien, mais je le considère comme une force.
Oui, j'allais te demander, est-ce que c'est parce que t'as peur qu'on te dise non? Mais en fait, non, c'est pas parce qu'on te dise
non.
C'est pas la peur qu'on te dise non, c'est le besoin d'être autonome, quoi.
Exactement.
Alors que moi, j'ai l'inverse de toi. Moi, j'ai l'inverse que je n'ose pas demander parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que des amis sont disponibles pour m'aider. Et que j'ai aidé des gens. Alors, il y a des gens qui m'ont aidé dans des. Enfin, je dis pas que personne ne m'aide, hein. Mais des fois, là.
Je pense que c'est une peur irrationnelle ou c'est légitime et. Enfin, pardon, pas que c'est pas légitime.
En fait, tu vois, j'ai
c'est
pas.
C'est véridique.
Bah, en fait, je crois que j'ose pas, mais aussi, je me dis, mais alors, il y a. Il y a une amie que j'ai aidée et qui, elle, je sais, c'est compliqué d'aider les autres. Donc, elle, je sais que je peux pas lui demander. Mais d'autres, en fait, où je me dis, je sais pas, j'aurais bien aimé que cette personne se rende. Enfin. prenne de mes nouvelles. En fait, j'osais pas demander, mais parce que j'ai trop peur de que cette personne me dise bah, désolée, je suis pas dispo ou non, et que en fait, je me dis mais du coup, j'ai dépensé de l'énergie à demander de l'aide pour en avoir aucune.
Ah bah après, quand tu fais une demande, le concept de la demande, c'est qu'on puisse te dire oui ou non. Mais c'est vrai que déjà, le fait de demander et de prendre son courage à deux mains pour demander, c'est pas si simple. Je suis assez d'accord avec toi en vrai. J'avais exploré ça avec ma psy. Je sais que j'en retire un peu de la satisfaction de me dire putain, j'en suis sortie toute seule et tout. Bon, un peu nul, mais voilà.
Non, c'est pas nul du tout. Moi, je suis totalement l'inverse. Mais je
ah ouais
viendrai, j'y viendrai après, ouais.
Et du coup, là, samedi, je me suis dit ok, ça fait plusieurs week-ends que là, je sens que ça va pas. Déjà, faut que je prévoie des trucs parce que quand je vois personne, je deviens chèvre dans mon appartement. Vraiment, je suis genre un poisson rouge dans son bocal, quoi. Du coup, j'ai prévu des trucs et je me suis dit, bah là, je vais l'appeler pour lui dire, écoute, est-ce que tu accepterais de venir chez moi pour que... Et aussi, je vis seule et tout, mais je pense que je suis quand même un être assez social. J'aime bien la présence et juste le fait que, bah, on ait cuisiné ensemble, qu'elle était là pendant que je faisais mon ménage. Je l'ai pas forcément dit, allez, nettoie maintenant, nettoie le sol. Non, évidemment que non, tu vois. Mais juste
récure pas... bien les coins.
Ouais, voilà, juste le fait qu'elle soit là pendant que je lui parle et que je lui dise, voilà, est-ce que tu peux juste surveiller la soupe pendant que je vais passer l'aspi. Enfin, je sais pas, ça m'a motivée. Et ça m'a fait du bien. Et vraiment, hier soir, quand je me suis couchée, je me suis dit, putain, bravo, parce que c'est assez rare que je le fasse. Et je me sentais bien chez moi, mieux qu'avant, parce que vraiment, c'était en train de devenir incontrôlable. Et voilà, donc mon kiff, c'est ça.
Et t'avais pas eu besoin de marchander, elle a dit oui tout de suite.
Ah oui, bien sûr.
Et la plupart de tes amis que t'aides régulièrement, en fait, t'es ravie de le faire, ça te fait plaisir
mais
de
oui.
les aider.
Mais bien sûr.
Ouais, d'accord. Parce que... Et toi, Fanny, quand t'as tes amis, ça te fait plaisir de le faire ?
Bah oui, oui, ça me fait plaisir. Mais tu vois, il y a vraiment un côté... Enfin, même si sur le moment, ça m'a fait plaisir, il y a un côté de... Ouais, mais maintenant, moi, il y a personne qui viendrait m'aider si je vais pas bien.
Bah en fait, il faut que tu demandes pour que tu saches. Donc, t'as cité une de tes amies où tu sais que c'est compliqué pour elle d'aider, mais peut-être que t'as d'autres amis qui seraient ravis de le faire et juste... Elles se sont pas doutées que t'avais besoin d'aide ou quoi. Enfin...
Ça, mais moi j'ai réussi à ranger mon appart vraiment. Enfin, après parce que j'ai beaucoup bossé et tout ça et vraiment mon appart était en bazar et parce que moi j'ai besoin de parler à quelqu'un et ça m'occupe. Tu vois, frère, je suis en mode j'étais au téléphone avec ma sœur pendant une heure et quart. Enfin, on s'appelle rarement et tout et vraiment une heure et quart mon appart il a été rangé.
Ah, c'est top.
Ah mais j'étais tellement satisfaite et là maintenant il est même encore un peu rangé maintenant. Là,
il est même encore un peu rangé.
Oui, il y a une partie.
Bon, bah, rappelle ta sœur, Fanny, rappelle ta sœur.
Mais ouais, tu te dis, ouais, c'est dur de dire, est-ce que j'ai peur de déranger les gens et...
Oui, mais rappelez-vous du plaisir que vous ressentez quand vous aidez des gens que vous aimez, en fait. J'ai l'impression de l'avoir dit plein de fois dans l'MK, c'est bizarre, mais en fait, quand on demande de l'aide à des gens qui vous aiment, bah, souvent ça leur fait plaisir de vous aider aussi, en fait.
Bien sûr.
Et si vous en doutez, rappelez-vous du plaisir que vous ressentez quand vous aidez des gens que vous aimez.
Et... Oui, mais des fois, tu te dis, est-ce que tous les gens vont être aussi...
Tournes. Demande pas toujours à la même personne.
Oui,
bien
sûr. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, en plus, tu vois, les gens, ils ont déménagé, ils sont un peu plus loin et tout.
Tu as raison, Tony.
Moi, parce que c'est pour ça que je te demandais si c'était une peur rationnelle ou si vraiment, t'avais déjà dit non à plusieurs reprises et du coup, t'oses plus demander.
Il y a les deux.
Mais les gens qui t'ont dit non, effectivement, faut pas les rappeler. Mais d'autres personnes, justement, peut-être que ça se tente, quoi.
Ben ouais.
Et, mais moi, mais vraiment, j'ai aucune gueule à demander de la notion.
Super, mais bravo.
Je passe ma vie à faire ça. Enfin, quand j'invite des gens, c'est ah bah avant qu'on prenne le goûter, il faut monter tel meuble. Après ça, et puis ah j'ai besoin que tu viennes avec ta perceuse pour faire des trous, s'il te plaît.
Non, mais c'est super.
Moi, je sais rien faire tout seul parce que je demande trop facilement de l'aide, en fait.
Ouais.
Ou alors non, mais justement, souvent je fais à manger à plusieurs. J'attends que la personne soit là pour qu'on cuisine ensemble parce que j'ai la flemme de le faire tout seul. Et je me dis à plusieurs, ce sera plus rapide. Et surtout, en vrai, c'est convivial, en fait. Tu peux aussi te dire c'est une activité qu'on peut faire ensemble. Bon, ça me rendra service, tant mieux. Avantage collatéral. Mais on va faire un atelier pâtisserie et avant ça on va faire un atelier montage de bibliothèque et voilà. Et moi souvent ouais, j'ai envie de dire genre deux personnes ou même une seule personne et on
moi
fait des trucs quoi.
J'adore faire ça, enfin
mais c'est cool, en vrai c'est marrant.
Enfin mais franchement moi après peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais effectivement le plaisir que je prends à aider les gens, si quelqu'un me dit mais j'ai déjà pris un train dans la journée pour aller aider quelqu'un. Enfin, bon, c'était pas très loin. Mais je sais pas, c'est...
C'était pas Biarritz, quoi, ça va, non ?
Non, c'était dans le Nord. Mais si je suis dispo, et que je peux, et que machin, mais j'accours avec plaisir. Enfin.
Ouais, parce que c'est aussi ça l'amour, je pense. Ouais. Enfin, c'est et l'amitié, c'est une forme d'amour sous-estimée. Mais voilà. Et donc, je trouve que c'est quand vous avez peur de demander de l'aide, se rappeler du plaisir que vous vous ressentez vous-même en aidant des gens que vous aimez, bah ça aide, je pense. Ça débloque beaucoup.
Et du coup, ton appart, Anthony, on en est où? C'est bon?
Il va bien parce que j'ai justement quelqu'un qui m'apprécie beaucoup, que j'exploite allègrement. et voilà. Et cette personne, d'ailleurs, en retour. Ose rarement me demander de l'aide et parfois elle me dit ah oui ce week-end il faudrait qu'il me rende un petit service mais ce sera pas long et tout et comme si elle avait peur que je refuse alors qu'elle m'a vraiment donné mille et un services, enfin mon appartement tient debout en grande partie grâce à cette personne quoi. Et le service c'est tenir une planche pendant qu'elle la découpe ou je sais pas quoi et je me dis ouais. Vraiment c'est pas un service en fait, enfin c'est pas plus compliqué que de débarrasser la table ou je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire que demander de l'aide aux gens qui vous aiment et que vous aimez, et vraiment je vous assure 9 fois sur 10, elles diront oui, quoi.
Bien sûr. LMK a tellement changé ma vie depuis quelques mois. Est-ce que maintenant, je vais passer à ça aussi? Enfin... La suite au prochain épisode.
Je vous le souhaite, c'est tellement pratique.
Tu nous le raconteras, s'il te plaît.
Oui. Bon, et toi, voilà. Anthony?
Mon kiff sera différent. Je profite de l'absence de Marie-Stéphanie pour parler d'un livre que je retiens depuis quelques semaines. Donc, c'est « Et refleurir » de Kimis. « Et virgule refleurir » publié aux éditions Philippe Ray. Kimis, vous la connaissez peut-être parce que c'est une afro-poétesse française. J'ai dit afro-poétesse, mais c'est un lapsus assez intéressant d'ailleurs. C'est une afro-féministe, une poétesse française qui avait publié un premier recueil qui s'appelle « À nos humanités révoltées », qui m'avait transcendé, qui est absolument merveilleux, quoi, je vous recommande chaudement. Voilà, si vous aimez la poésie, et même si vous ne l'aimez pas, vraiment, c'est de la musique pour les oreilles, pour la tête, pour l'âme. Et là, elle a publié son premier roman, qui s'appelle donc « Et refleurir », qui est fortement inspiré de la vie de sa grand-mère. Kimis, d'ailleurs, c'est un pseudonyme qui est directement inspiré du nom de sa grand-mère et du nom de sa propre mère. Et donc voilà, parce que Kimis ne s'appelle pas vraiment Kimis, elle s'appelle Fanny en réalité.
Encore une Fanny, trop bien.
Encore une Fanny, effectivement. Et voilà, donc c'est son premier roman et elle l'a vraiment écrit comme une poétesse. Je m'y attendais pas. Enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est justement parce que je suis complètement imprégné des codifications françaises qui veulent, qu'il y ait les romans d'un côté, écrits en prose, la poésie de l'autre, écrits plus volontairement en vers, et comme si c'était inconciliable de faire les deux. Et elle mêle les deux, en fait, dans la forme même du roman. Donc, c'est un roman qui fait environ 380 pages et entrecoupé de plein de poèmes, en fait. Donc, chaque chapitre ou presque, non si, je crois que vraiment c'est chaque chapitre, s'ouvre par un poème. En tout cas, il y a un poème entre chaque chapitre, voilà, pour le dire plus simplement. Et c'est l'histoire de sa grand-mère, donc, qui grandit au Cameroun, dans un milieu plutôt rural, et qui a envie d'aller en ville pour apprendre, pour aller à l'école, en fait. Ça se passe, du coup, dans le Cameroun des années 50. Et en fait, elle peut pas aller longtemps à l'école, je crois même qu'elle y va qu'une seule journée, parce qu'elle doit s'occuper de l'enfant de sa sœur. Et aussi de la culture dans des champs. Et bref, du coup, elle se trouve empêchée de faire la vie dont elle rêve. Et son père a passé son enfance à elle à lui dire qu'elle était quelqu'un de très spécial et qu'elle allait avoir une grande vie. Et elle se sent vraiment empêchée dans son destin. Et finalement, une rencontre fortuite avec une autre classe sociale. Donc, le peu de temps qu'elle a passé en ville lui a permis de rencontrer quelqu'un qui l'a invité à une soirée d'anniversaire où elle a rencontré un homme qui, en gros, c'est très très tôt dans le livre, donc je vous le dis, en fait elle tombe enceinte d'un homme, une espèce de coup d'un soir, alors qu'elle a quelque chose comme 16 ans, je crois, 15-16 ans, et du coup, bah, elle garde le bébé, parce que c'est le Cameroun des années 50, quoi, et c'est compliqué, et c'est comme ça que change sa vie, et donc elle accouche d'une petite Freya, et ça bouleverse complètement sa destinée, et en fait elle essaye de gagner en autonomie. Et je voudrais pas tout vous raconter, mais en gros elle commence à faire certains métiers qui lui rapportent beaucoup d'argent, mais qui nuisent à sa réputation, et ensuite elle bouge en France pour tenter de changer de vie, et elle se confronte à énormément de difficultés, dont évidemment le racisme et la misogynie, mais pas que, et voilà, et donc c'est un destin de femme à la fois hors du commun, à la fois incroyablement banal, en fait, dans les violences systémiques qui se heurtent à sa vie, qui bloquent, qui font obstacle à son existence, à son épanouissement. Et tout ça, c'est raconté avec une infinie poésie. Et en fait, c'est un personnage qui est très loin de moi. auquel j'ai eu du mal à m'identifier. Et en fait, j'ai fini par me dire, mais en fait, il n'y a pas besoin de s'identifier, wesh. Et donc, je me suis dit, mais trop cool cette femme. Enfin, elle a vraiment une vie hyper inspirante, qui n'a rien à voir avec la mienne, qui suis un jeune gay parisien, qui n'a pas d'enfant, qui n'en veut pas. Enfin, bref. Et elle, elle a plein de galères de mère célibataire qui doit faire tourner la baraque, et pas seulement sa baraque à elle, parce qu'elle est rarement chez elle. Et voilà, donc j'ai trouvé ça assez époustouflant, surtout pour un premier roman qui n'est pas tant que ça un roman, qui est aussi un recueil de poésie, un recueil de leçons de vie, j'ai envie de dire. Et voilà, donc j'ai adoré ce premier roman de Kiemis aux éditions Philippe Ray. Voilà,
ouais, je ne sais pas quoi vous dire.
Ouais, j'ai envie de le lire.
Il est sorti quand ?
Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti début février, je crois que c'est peut-être le 2.
Anthony dans l'actualité.
J'ai trop de copines qui ont sorti des bouquins dernièrement, du coup je suis un peu perdue entre celui-ci, celui de 12 Dibondo, La charge raciale aux éditions Fayard, dont je vous parlerai certainement bientôt. Mais en tout cas, il a été achevé d'imprimer en janvier 2024, donc oui, il est sorti en février 2024. Ouais. Ouais. Je crois que c'était le 2, un truc comme ça. Et en plus, j'ai commencé ce livre à un moment où Kiemis a animé une rencontre du ciné-club féministe de la revue Gaze, G-A-Z-E, à la Gaîté Lyrique. En fait, Kiemis a choisi de présenter un film pour ce ciné-club qui s'appelle... je ne sais plus comment s'appelle le ciné-club, mais c'est le ciné-club de Gaze, quoi. Et en gros, elle a choisi Atlantique de Mati Diop. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Mais c'est d'une splendeur, vraiment. Je regarde très très peu de films parce que je ne supporte pas la déception. Et il y a beaucoup trop de croûtes qui sortent, bref.
Ouais.
Et vraiment, ce film était absolument merveilleux et ça m'a beaucoup aidé aussi à plonger dans le livre parce que ça n'a rien à voir en vrai, Atlantique. Enfin, si, ça a beaucoup de points communs et plein de différences. Atlantique de Mati Diop et Refleurir de Kiemis. Les deux, c'est des destins de femmes hantées par des hommes, grosso modo. Et en Afrique subsaharienne, Atlantique, ça se passe plutôt au Sénégal, et Refleurir, ça se passe au Cameroun et en France. Mais Atlantique, ouais, c'est aussi une splendeur. Si vous êtes plutôt film et pas tellement livre, je vous recommande de voir ce film qui doit pas être si facilement disponible sur les plateformes, mais ça vaut le coup de payer pour voir le film. Donc voilà.
Ouais. Ok.
Voilà. Bref, je m'égare. C'était un petit kiff dans un kiff. Oui. Navré, ça m'a échappé. Eh ben, je crois que c'est la fin de cet épisode.
Oui, merci Anthony.
J'espère que vous avez kiffé. Et si c'est le cas, pensez à nous lâcher plein de commentaires sur les plateformes d'écoute de podcasts, type Apple Podcast, Spotify, etc.
Oui.
Et 5 étoiles, évidemment.
Donnez des commentaires. Donnez des commentaires.
Donnez des commentaires. Lâchez vos coms.
Lâchez vos coms à Anthony, parce que sinon il dit que vous l'aimez pas. Donc.
Non, mais non, ça va. Mais je ne vis pas pour l'amour des autres, vraiment. Mm-hmm.
Je rappelle que les liens vers nos comptes Instagram sont dans la description de cet épisode.
Car donc, la vie est bien faite.
Auditeurs, auditrices, vous n'avez même pas à aller chercher. Vous allez juste, hop, vous cliquez. Est-ce qu'on clique sur le téléphone? Comment on dit? Je ne sais pas. Vous
savez, je suis pas
sûr
que ce soit cliquable en plus dans la description de toutes les plateformes.
Normalement, ou, peut-être.
Il y a des plateformes qui font en sorte que ce soit pas cliquable pour éviter qu'on sorte de leur univers.
Ah, vous.
Ils ont fichtré.
À l'image d'Instagram, par exemple. Bref, je m'égare. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous. Oui. Demandez de l'aide à vos amis et aidez vos amis. Voilà, ils vous le rendront bien. Elles vous le rendront bien. Elles vous le rendront bien. Et lisez, cultivez-vous, visitez des charpentiers et des charpentières. Devenez charpentière, devenez charpentière.
Oui.
Notre-Dame a besoin de vous. Et pas que Notre-Dame. Voilà, les monuments de demain ne tiennent qu'à vous. Ne dépendent que de
vous. J'aurais voté pour toi, Anthony, là.
Votez Anthony Vincent 2027, je sais pas quand, voilà. Macron démission. Bisous.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.